Greta Bakker, qui habite à la Fondation Mikkelsen, en ce moment nous a conduit de la petite maison, de la petite grange qui se trouvait au bord de la Baltique, qui était la résidence d'été des Céline, à cette maison beaucoup plus vaste et même assez cossue, assez coquette, qui est un bâtiment un petit peu en forme de T, qui était la résidence d'hiver, au milieu d'une assez vaste plaine et en pleine nature. Et là, par contre, on a vu côté bois et côté champs et pas du tout une vue sur la mer. Et nous sommes entrés dans cette pièce, probablement, qui était la salle de séjour. Et nous avons eu un choc assez rapidement parce que notre premier regard a été vers un rayonnage, vers une bibliothèque qui se trouve au fond de la pièce et où il y a un mélange de livres avec des reliures anciennes, des livres qui sont un petit peu atteints par l'humidité, qui sont gondolés, mais qui étaient tout à fait certainement des livres qui se trouvaient là il y a 30 ans lorsque Céline était dans cette maison.
Oui, alors il y a quelque chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est la fameuse collection de la Revue des Deux Mondes, reliée en cuir. Il y en a là, je ne sais pas, comme une quarantaine, où on a tous les brochets, quoi, où on a les textes de la Revue des Deux Mondes, de l'année 1900, oui, c'est ça. Ça
a été 1900, les premiers, voilà. Jusqu'à le milieu des
1920,
années 20.
1920, voilà. Alors ça, Céline dit quelque part, et à plusieurs reprises, qu'il a eu l'occasion comme ça de relire la collection complète de la Revue des Deux Mondes, et bien que finalement, ça résume très bien le style de la littérature académique, et que éternel, dit-il. Hein, c'est comme le style Bourget. Il y a du Bourget là aussi un peu partout, non? Il y a un peu de Bourget, puis il y a le journal des Goncourt. Voilà. Alors pour lui, ça représente le français tel qu'il est inamovible et qu'il va se reproduire indéfiniment, c'est-à-dire la façon d'écrire comme ça les romans ou l'histoire. Et il a cette formule fameuse qui consiste à dire que pour faire marcher le marché littéraire, pour avoir des prix littéraires et pour satisfaire les éditeurs et les critiques, il suffit de prendre la Revue des Deux Mondes, de recopier ce qu'il y a dedans éternellement et d'y ajouter de temps en temps les innovations techniques du temps. Par exemple, vous prenez n'importe quel article de la Revue des Deux Mondes ou n'importe quel roman publié par la Revue des Deux Mondes où il y a la psychologie classique des personnages qui va se reproduire éternellement. Et puis vous ajoutez, si vous êtes aujourd'hui, des avions et des téléphones, dit-il. Et puis ça marchera très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le sentiment très quand même profond que quelque chose est bouclé, bloqué, hein, que ça va se reproduire, que vraiment l'espèce humaine, en tant qu'elle doit se raconter des choses à elle-même, romanesquement, va répéter éternellement les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes histoires psychologiques, les mêmes histoires sentimentales, les mêmes histoires de romans familiales et d'intérêts secondaires. Donc lui, il a l'impression d'être passé à travers tout ça, mais évidemment de ne pas être...
Et c'est vrai que ça se poursuit aujourd'hui.
Je crois que ça se poursuit aujourd'hui.
Le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire est même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression.
Alors lui, ce qu'il a découvert, qu'est-ce qu'il a découvert? Eh bien, une chose était, à mon avis, très importante, à savoir, comme il le dit dans les entretiens avec le professeur Y, qui est son livre probablement le plus explicite sur son art poétique, il a découvert quand même que le monde entier, la réalité la plus profonde de l'espèce humaine, c'était la paranoïa, tout de même. Et que si l'on voulait innover et montrer sous cette croûte soi-disant sage et répétitive le fond des choses, eh bien, il fallait se mesurer à l'essence même de la paranoïa. Et c'est ce qu'il a fait.
Mon truc à moi, c'est l'émotif. Le style rendu émotif vaut-il, fonctionne-t-il? Je dis oui! 100 écrivains l'ont copié, le copie, le trafic, démarque, maquille, goupille, tant et si bien qu'à force! Mon truc passera bientôt chromo! Oui, monsieur le professeur, vous verrez comme si j'y étais, chromo! Je vous donne pas 30, 40 ans avant que l'académie s'y mette, s'en baffre, 1, 2, 3, 4 coups de dictionnaire, et que le reçoive plus qu'en émotif, et que des émotifs. Sic transit. le sort de toutes les inventions. Les petites ou les grandes. Pillage, contrefaçon, grugerie, singerie, hargne pendant 50 ans et puis oust ! Tout bascule au domaine public. La farce est jouée. L'inventeur, lui, crounit depuis belle. Est-ce qu'il a même existé ? On se demande.
Pour être à la mesure de la paranoïa de l'époque, évidemment, il faut une sorte d'énergie et de rage et de sursaut considérable. Alors, je crois que c'est ça qu'il a essayé de faire, d'où le fait qu'il se soit, en quelque sorte, implanté des délires hein, qu'il a cultivés sur lui-même, selon peut-être la fameuse formule de Rimbaud, imaginez un homme qui s'implanterait des verrues sur le visage et qui ferait sur lui-même des expériences presque médicales, qui se ferait des cancers expérimentaux pour voir comment ça se développe et comment quelqu'un qui est fou réagit. Alors, je crois que là, la grande découverte de Céline, c'est ça, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, et peut-être parce qu'il était médecin, peut-être parce qu'il savait que la physiologie avait quelque chose de plus profond toujours que la psychologie, que les sentiments, etc., que les vraies choses se passaient peut-être à l'intérieur profonde du corps. C'est pour ça qu'il dit, bon, quand vous avez de la fièvre, quand vous êtes vraiment dans un état de transe, de maladie, là, vous commencez à être vraiment dans la réalité, alors qu'à 37 degrés centigrades, c'est-à-dire la température normale, tout redevient banal. Alors lui, premièrement, il souffre. Ou il exagère sa souffrance, il va plus loin, c'est-à-dire qu'il en profite, si vous voulez. Deuxièmement, il est très attentif à tous les phénomènes de vertige, d'hallucination, etc., et c'est ça qui l'intéresse dans sa perception de la réalité, parce qu'il pense que c'est plus vrai que la perception à 37 degrés banale. Et je trouve que ce régime de l'hallucination chez Céline, depuis le début, hein, est extrêmement intéressant et probablement l'objet d'une résistance de la part du lecteur. Le lecteur est 37 degrés centigrade, le lecteur lit à 37 degrés et il ne lit que ce qu'il perçoit à 37 degrés. Alors, si vous prenez quelqu'un comme Sartre, par exemple, il est très curieux de voir que Sartre, qui vient en quelque sorte de Céline, qui a écrit La nausée à partir du voyage au bout de la nuit, lorsqu'il s'explique de façon très intéressante d'ailleurs sur ses expériences psychologiques un peu anormales, c'est-à-dire précisément sur l'hallucination, trouve très peu de choses à dire. Très peu de choses, c'est-à-dire qu'il a vu un porte-manteau se transformer en vautour et le soulier de Simone de Beauvoir se transformer en mouche, ce qui fait quand même pas grand-chose. Bon, alors, tandis que Céline, évidemment, est plein d'images, il en regorge, n'est-ce pas ? C'est un trop-plein, c'est un débordement, c'est un excès. Un excès tel que vraiment vous ne pouvez pas le faire rentrer dans la revue des demandes. Il est évident que si on intercale deux pages de Céline dans la revue des demandes, la revue des demandes explose.
Alors, question du style. Bon, alors le style, ben, le style, je le trouve aussi de tous ces trucs-là, ils sont dans le même ton que le Bachot, dans le même ton que le journal habituel, dans le même ton que les plaidoiries, dans le même ton que les déclarations à la Chambre. C'est-à-dire, c'est un style verbal, éloquent peut-être, mais en tout cas, certainement pas émotif. Alors, on dit, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a, etc. Ben, je dis que ce que l'on fait, ce sont des romans inutiles, parce que ce qui compte, c'est le style. Et le style, ben, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail. Et les gens ne sont pas travailleurs. Et ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail.
Sur ces rayonnages, nous avons retrouvé également d'autres livres, alors qui prouvent absolument l'authenticité de la présence de ces volumes il y a 30 ans, lorsque Céline et sa femme étaient là. Notamment, il y a un exemplaire qui date de 1871 du Génie du christianisme, c'est l'édition de Michel Lévy, et il y a marqué sur la page de garde, au crayon, Lucette des Touches, avec une adresse, 20 Vedstranden, c'est donc l'adresse de Karen Jensen, c'est-à-dire la première adresse où ils ont habité à Copenhague. C'est un volume d'ailleurs qui a été un petit peu déformé par l'humidité. Il y a d'autres choses également intéressantes qui marquent la présence de Céline aussi. C'est peut-être cette encyclopédie médicale américaine en 6 volumes, qui était pour lui probablement un outil de travail et de référence. Et puis des petites brochures, notamment un ouvrage d'un certain Paul Abelli sur l'anxiété, limites et bases, diagnostic, thérapeutique, considérations endocrinologiques. Évidemment, c'est certainement un ouvrage qu'il a dû lire. Et enfin, un petit opuscule également pour une politique d'amnistie de Louis Rougier, qui date de 1946.
C'est très émouvant de voir le Chateaubriand, parce que, bon, Chateaubriand est un des grands écrivains français qui, quand même, a été aussi en exil, lui.
Alors, je reviens à ce style. Eh bien, ce style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et puis de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens, mais très légèrement ou très légèrement, parce que tout ça, si vous faites lourd, alors c'est une gaffe, n'est-ce pas, c'est une gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut aller, il faut tourner autour. Autour de quoi? Autour de l'émotion.
Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction entre la volonté d'avoir un style, comme il dit, instinctif, et puis cette écriture extraordinairement travaillée?
Eh bien, je crois qu'au contraire, il n'y a aucune contradiction, bien sûr. C'est-à-dire que Céline veut dire la vérité. C'est un homme de vérité, hein, même délirante. C'est quelqu'un qui est travaillé par la vérité, qui ne peut pas rester en place tant qu'il ne sort pas vraiment le fond des choses telles qu'il lui paraissent vraies. Alors je crois qu'il est habité par cette pulsion de vérité. Hein. On voit qu'il est, c'est quelqu'un d'une délicatesse, d'une sensibilité extrême, à vif, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui ressent tout comme quelque chose d'énorme. Probablement qu'il devait être blessé à chaque instant par ses semblables.
Ah, vous faites ça, c'est facile, ah, ben, mon Dieu. Mais si j'avais, moi, votre facilité. Mais j'ai pas de facilité du tout, non, le Dieu. Ah, mais aucune, rien du tout. La facilité, les types sont beaucoup plus doués que moi. Mais simplement, je me mets au travail. Mais le travail, ils ne mettent pas, ils ne mettent pas de boulot, ils ne concentrent pas. Bon.
C'est le contraire de l'écriture automatique, c'est le contraire de l'inspiration, c'est le contraire du mensonge poétique et de l'effusion non travaillée, bien entendu. Donc, je crois que pour retrouver cet état de sensibilité extrême immédiate, il lui faut alors passer par un très long travail d'élaboration, et que c'est tout à fait logique. Il ne tombe pas, si vous voulez, dans le piège romantique, c'est le contraire d'un romantique.
Je vous prends un lecteur, le lecteur d'un livre émotif, une de mes œuvres, en style émotif. Alors, il est d'abord incommodé un peu, ah. Qui ? Le lecteur qui me lit. Et lui semble, il en jurait, que quelqu'un lui lit dans la tête. Dans sa propre tête. Bigre, bougre. Parfaitement dans sa propre tête. Pas de bigre, pas de bougre. Sans lui demander la permission. C'est de l'impressionnisme, colonel. Tout le truc de l'impressionnisme. Le secret de l'impressionnisme. Je vous ai parlé de l'impressionnisme ? Oui. Pas simplement à son oreille, non. Dans l'intimité de ses nerfs, en plein dans son système nerveux, dans sa propre tête.
Quand vous lisez du Céline, quelle est votre impression? Que le support disparaît, que vous n'êtes pas en train de lire des mots sur la page, mais vous entendez immédiatement et vous voyez la chose sortir absolument du livre pour se mettre en scène devant vous directement, sans transition, tout de suite. Hein, les livres commencent immédiatement comme ça, sans exposer. Vous voyez comment on est loin de Flaubert, de Stendhal, de Balzac même, et comment nous entrons dans un style transitif, on dirait performatif en termes savants, c'est-à-dire on crée immédiatement ce qui va se passer du fait de le dire. Hein, il est très très conscient de ça.
Je ne suis pas un homme à message. Je ne suis pas un homme à idées. Je suis un homme à style. Lui, c'est un passager, n'est-ce pas, le lecteur. Il a payé sa place. Il a acheté son livre. Il a payé sa place, mettons, il a payé sa place. Bon, il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les soutes. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont. Et il ne s'occupe pas comment on conduit le navire. Lui, il veut jouir. Il veut une délectation. Bon, alors, il a le livre et il doit se délecter. Mon devoir, moi, est de le faire se délecter.
Il a très bien diagnostiqué les choses dès 50. Il sent très bien quoi ? Que la lutte à mort va être entre l'écrivain et les médias, comme on dit maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire radio, télévision, audiovisuel en général.
C'est l'un des thèmes dominants, même des entretiens avec le professeur Y.
Il ne parle que de ça. Il devient conscient de quoi ? Comme aucun autre écrivain. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un très grand novateur et analyste, n'est-ce pas ? Vous disiez qu'il n'a pas fait théorie du roman. Si, sa théorie du roman consiste à faire une théorie du marché du roman. C'est-à-dire que les réflexions sur l'édition sont centrales dans toute l'œuvre de la fin. Il va s'occuper de quoi ? De savoir comment ça se fabrique, la réputation et l'impression même des livres. Et il ne parle que de ça.
Parce qu'il a envie de se vendre.
Il a envie plutôt de démontrer que la résistance dont il peut être l'objet n'est pas soutenable. Et il en va de même, en général, de la radio, de la télévision et de la presse. Bon, ça, c'est une vieille idée chez lui, qui va plus loin que ses délires antérieurs, où il s'agissait de complots de certaines catégories de personnes, de certaines catégories, les juifs, etc., notamment au moment de Bagatelle pour un massacre. Il comprend de plus en plus qu'il y a un système du mensonge. Et que par rapport à ce système romanesque du mensonge, il y a un roman qui peut dire la vérité. Mais évidemment, c'est une lutte, alors à ce moment-là, acharnée, une rivalité de tous les instants.
Il prend à partie son propre éditeur.
Constamment, on n'a jamais vu un écrivain, se faire imprimer par un éditeur en l'insultant à longueur de page. Alors, il y a des petits accommodements. On sait que Céline a traité Gallimard, Gaston, avec la plus grande virulence. Certains y découvriraient peut-être des relents de tendresse, en effet. Si on est agressif par rapport à quelqu'un, ça veut dire peut-être qu'on est tendre avec lui. Mais enfin, il le traite quand même de désastreux épicier.
De coffre.
C'est ça. Et dans les romans de la fin, dans la trilogie, Gallimard Gaston apparaît sous les traits de Bretin Achille, Achille Bretin, avec son grand châtreur, c'est comme une sorte de sérail, n'est-ce pas, son grand châtreur maison, qui s'appelle Norbert Loukoum, qui est Jean Paulhan, c'est pas gentil pour Paulhan.
Paulhan qui est nommé également dans les entretiens.
Paulhan qui est nommé dans les entretiens. Et au fond, Céline déclare la guerre officiellement en plein Gallimard, qui est le temple quand même de la littérature française du XXe siècle. Enfin, c'est vrai, l'histoire de la maison Gallimard et l'histoire de la littérature française en quelque sorte se confondent jusqu'à Céline. Eh bien, il vient poser sa bombe là en attaquant l'endroit où, au fond, il touche un petit peu son argent et sa réputation.
Je vais vous poser une question. Pourquoi vous, le plus grand écrivain du siècle, l'inventeur du style que vous dites, le bouleverseur des lettres françaises, le Malherbe actuel, en somme. Enfin, Céline Vin, c'est bien ça. Oui, oui, c'est exact. Pourquoi M. Gallimard ne fait-il jamais parler de vos livres? Il a son idée tactique. Il en fera parler quand je serai mort. Il vous survivra. J'ai l'impression, il ne se fatigue pas. Mais pour le présent, tant que vous vivez, qu'est-ce qu'il fait de vos livres? Il les enfourne dans sa cave, il les cache bien, avec des milliers d'autres. Il stocke.
Lorsque vous avez commencé à écrire Philippe Solers à la fin des années 50, évidemment, vous commencez à écrire à un moment où il y a eu un dépouillement de l'écriture avec Beckett, avec le nouveau roman, dont un certain nombre de textes sont sortis. Il y a eu le degré zéro de l'écriture également de Roland Barthes qui date de 1953. Quant aux influences des grands écrivains étrangers dominants, ce sont celles de Dostoïevski sur la génération précédente et puis de Kafka, de Joyce.
Kafka,
vous, qu'est-ce que Céline vous a appris comme écrivain au niveau de l'écriture?
Oh, des tas de choses. Je crois que ce qui est frappant chez lui, c'est qu'il soit arrivé à ce sens historique énorme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il ait compris que le roman devait devenir une sorte d'histoire de l'espèce prise dans, vraiment, mais dans la planète. Et les populations, les histoires entre pays, etc., sont là prises en quelque sorte en direct. D'autre part, vous avez l'impression, en effet, qu'il vous fait l'histoire en direct, hein, qu'il vous parle l'histoire en direct. Et ça, c'est énorme. Ça n'est pas le roman d'un petit coin avec des petits personnages en train d'avoir des petits rapports subjectifs entre eux. Non, c'est vraiment l'histoire de ces migrations, de ces exécutions, de ces exterminations, de ces illusions, mais alors vraiment qui couvrent la planète. C'est comme une sorte de satellite qui tourne autour de la planète, maintenant cette espèce de parole de Célinienne à la fin. C'est très impressionnant. Alors je crois que c'est ça la grande leçon, c'est qu'il ne faut pas se confiner dans un paysage trop étroit, comme on a toujours tendance à le faire, parce qu'on n'ose pas sortir de soi, pas seulement de soi, mais de son entourage. Il faut oser. Je crois que c'est une leçon d'audace, parce qu'on est toujours, on n'ose pas lever le refoulement, n'est-ce pas ? On est un écrivain, c'est toujours quelqu'un qui peut retomber dans l'inhibition, dans la régression, dans le refoulement, dans le fait de ne pas oser démystifier tout, justement. Il n'y a plus de limite, il n'y a presque plus de personnalité, n'est-ce pas ? C'est comme Shakespeare. Hein, on ne pourrait pas dire que Shakespeare ait pris à telle ou telle illusion, à telle ou telle personnalité. personnalisation. Il y a ça, et puis alors il y a la leçon énorme, à mon avis, justement rythmique, c'est-à-dire oser imposer son rythme à soi.
Bon, très bien, n'est-ce pas? Il met 3 points, 3 points, 3 points. Ben, vous savez, 3 points, les impressionnistes ont fait 3 points. Vous avez Seurat, il mettait les 3 points partout. Il trouvait que ça aérait, ça faisait voltiger sa peinture. Ben, il avait raison, cet homme. Ça n'a pas fait beaucoup école. On respecte beaucoup Seurat, on l'achète très cher, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ait fait des petits. Je ne crois pas que moi, on me suive beaucoup. N'ayez pas peur. On en prendra un petit bout par-ci par-là, mais pas beaucoup, non. Un petit peu, c'est trop dur.
Moi, ça m'a posé des problèmes, la réussite de Céline, parce que je crois qu'il faut comprendre que ceci étant fait, et fait comme c'est fait, c'est-à-dire admirablement, trouver quelque chose qui aille ailleurs, qui fasse autrement, est quand même extrêmement compliqué. Et je crois qu'il faut comprendre que, premièrement, ce qui est acquis, c'est cette libération du sujet épique universel, très singulier et très universel. Deuxièmement, que la ponctuation fait partie de la langue, et que par conséquent, ce qui est acquis aussi, ça c'est aussi acquis avec Joyce, et c'est une grande révolution, c'est qu'il faut trouver un style, une écriture, qui soit intermédiaire entre le parler et l'écrit, et qui soit ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Donc c'est déjà une très grande révolution, n'est-ce pas ? Il faut être à la limite des deux. Et puis, il faut se condenser au maximum, donner le plus possible d'informations par le minimum de mots, de formulations, n'est-ce pas ? Ça, c'est le grand problème aussi du XXe siècle, pour pouvoir concurrencer cette espèce de télématisation ambiante, n'est-ce pas ? Nous entrons dans une ère où, d'un seul coup d'œil, les ordinateurs donnent les réponses à des questions compliquées, nous entrons dans cette espèce de très grande rapidité d'information et d'universalisation de l'information. Je crois que Céline est quelqu'un qui est déjà tout à fait dans le coup, même s'il n'est pas, ce n'est pas un homme de l'électronique, et pourtant si. Voilà. Finalement, on peut rationaliser, au lieu de le voir comme un fou, etc., on peut trouver qu'il représente très bien son époque dans cet énorme éclatement de l'électronique. C'est le grand poète de l'électronique.
Ceci dit, bah, je n'ai plus qu'à m'en tirer. Je crois que j'ai plus grand-chose à dire. Non, 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 merci, ça va comme ça. Je crois.
Un homme, une ville, Céline à Copenhague avec Philippe Solers par Jean Montalbetti. Cette deuxième émission avait pour thème Des touches en fuite, une débâcle de style, avec la participation de René Rundvilfos et de Greta Bach, et la voix de Louis-Ferdinand Céline. D'entretien avec le professeur Y, de féerie pour une autre fois, ont été dits par Michel Bittold. Prise de son à Copenhague, Daniel Burguez, mixage, Édouard Campras, Michel Ristich, réalisation, Christine Bernard-Sugy.